toi mon toi, toi toi mon tout mon roi, toi toi mon toi, toi toi mon tout mon roi.
C'est le moment d'accueillir Philippe Quentin avec comme premier sujet, avec notre intro maintenant désignée. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
On va parler du toit d'un futur stade et il y a eu un travail assez intéressant effectué par la presse canadienne. Je crois que c'est pas signé là, sur ce que je lis, je crois que c'est Frédéric Daigle.
Oui, c'est Frédéric.
Qui le fait et qui amène plus loin la réflexion quant à ce qui serait le plus adéquat ou qu'est-ce qui serait le meilleur fit, si tu me permets, qu'est-ce qui serait le meilleur scénario, tiens, je vais-tu le dire, pour un futur toit ou si on a besoin de quelque chose compte tenu du climat ici à Montréal.
Ben oui, c'est ça. Il revient sur ce débat-là, un débat qui est très intéressant, savoir un stade de baseball pour accueillir d'éventuels Expo 2.0. Alors, est-ce qu'on met un toit ou non? Il y a des tenants des deux côtés. Il y en a qui disent non, faut pas de toit. Le baseball, c'est en plein air. Faut sentir le beau gazon vert. Puis tant mieux s'il y a un petit peu de vent. Puis tout, faut qu'on soit dans des conditions climatiques normales. Puis il y en a d'autres, comme moi et comme toi, je le sais, qui disent non, ça n'a aucun bon sens qu'il n'y ait pas de toit à Montréal pour un stade de baseball. On voit encore la température ce printemps. Un mois d'avril très difficile, de la pluie, du froid. Un mois de mai qui, bon, on a eu deux belles journées le week-end dernier, mais pour le reste, c'est pas fameux. Hier soir, là, si les Expos avaient joué contre les Giants à Montréal, au Bassin-Peel, là, ça aurait été assez difficile. Alors, moi, je pense que ça serait un désastre si ce futur stade-là n'avait pas de toit, parce qu'il y aurait trop de matchs remis. Il y aurait trop de gens qui ne se présenteraient pas. Il y aurait peut-être une belle vente de billets de saison, mais est-ce que tu as le goût d'aller au baseball, même si tu as des billets pas pires, au mois de mai, quand il fait 12 degrés puis il pleut, tu sais? Moi, non, je pense pas. Je pense que tu restes à la maison. Alors, donc, tout ce débat-là est porté. Et là, il y a une chose qui a vraiment attiré mon attention dans l'article de Frédéric Daigle, et c'est qu'il a parlé à un ancien dirigeant du baseball majeur qui, lui, voit deux choses survenir dans le baseball. D'abord, le fait que les saisons pourraient être légèrement remanié, de manière à ce que les équipes du Nord commencent les deux premières semaines avec des matchs à l'étranger dans les villes du Sud. Bon, peut-être qu'on peut faire ça, mais je sais pas, moi, si toutes les équipes seraient d'accord avec ça, parce qu'il y a un risque, hein, un risque important pour les deux équipes. Je pense que pour l'équipe qui visite les équipes du Nord, qui commencerait avec deux semaines à l'étranger, il y a un risque sportif. C'est-à-dire que si tu as de la misère à gagner à l'étranger...
Comme l'Impact cette année-là.
Ben voilà, il y avait un risque, ils s'en sont tirés, mais je pense pas qu'il faudrait essayer ça. Ils vont peut-être l'essayer à toutes les années maintenant parce qu'ils veulent jouer au Stade Saputo, puis bon, on peut pas jouer au Stade Saputo à la fin du mois de mars. Mais il y a un risque énorme. Et c'est de commencer la saison avec une fiche, disons, c'est au baseball, on parle d'une quinzaine de matchs à l'étranger pour commencer, d'une fiche de 3-12, de 4-11. Tu commences dans une situation extrêmement délicate et ça peut être très difficile de remonter ça. Alors ça, c'est le risque sportif. Et pour les équipes qui reçoivent, ben c'est un risque économique parce qu'on sait très bien que un mardi soir du mois d'avril, tu vas avoir moins de monde qu'un mardi soir au mois de juin ou au mois de juillet. Tu sais, quand les écoles c'est terminé, quand les jeunes peuvent aller plus facilement au baseball, on est tous dans un esprit de vacances. C'est là que tu attires tes bonnes foules. Et ça, c'est vrai dans pas mal tous les marchés. Alors, est-ce que tu as vraiment avantage comme équipe à commencer avec beaucoup de matchs à la maison dès le départ? Je suis pas convaincu de ça.
Et est-ce que tu es négociable, bien que tous les deux nous plaidons pour qu'il y ait, bien sûr, une facilité là, pour que le terrain, en tout cas, à tout le moins. Veux-tu que les joueurs soient à l'abri, que le losange soit à l'abri, ou tu souhaites que les spectateurs soient à l'abri, Philippe? Parce qu'il y a divers scénarios par rapport à ça.
Oui, tout à fait. Minimalement les spectateurs, puis pas simplement les spectateurs. On donne l'exemple du Minnesota où on dit les gens qui sont dans le plus haut des gradins ou au balcon sont protégés par un toit. Puis ça, c'est bien. Mais ça donne des images qui sont vraiment très, très, très plate pour un match de baseball. La semaine dernière, j'ai écouté un match des Blue Jays qui jouait au Texas contre les Rangers et il s'est mis à pleuvoir beaucoup là, en 9e, 10e manche. C'est le match qui était là en prolongation que les Blue Jays ont gagné. Et là, tu as vu justement tous les gens qui sont allés se réfugier dans le haut des gradins parce que là, ils sont protégés par un toit, un mini-toit. Mais tu sais, quel spectacle ça donne? Tu voyais les joueurs qui jouaient devant des gradins vides dans les premières rangées. Ça enlève beaucoup d'ambiance, tu sais. C'est comme si tu jouais devant personne. Alors, je trouve pas que ça fait une très bonne image non plus. Mais puis encore une fois, tu sais, oui, il y a la pluie, mais il y a le vent, il y a le froid aussi. Là, à Montréal, on le connaît, le climat, il est pas très avantageux. Puis c'est pas pour rien qu'à Toronto, où c'est peut-être légèrement plus doux, plus rapidement qu'à Montréal, c'est très rare qu'on commence à jouer à ciel ouvert avant la fin du mois de mai. Alors, il y a des raisons pour ça. Ça, c'est un des éléments, mais l'autre élément, Mario, puis je te laisse également donner ton opinion là-dessus, mais c'est quand on dit que le baseball pourrait éventuellement réduire son nombre de matchs.
Oui.
Autrement dit, les saisons seraient moins longues. On aurait peut-être de quoi? On parle de 100, 148 ou 150 matchs ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et là, on dit, bien, évidemment, si on fait ça, le gros avantage, c'est que la saison va commencer plus tard. On va couper en début de saison. On va commencer le 7, le 10 avril au lieu de commencer à la fin du mois de mars. Mais ça, moi, je ne vois pas ça. Imagine si tu coupes, j'ai fait juste un petit calcul très banal, si on coupe, c'est l'équivalent de couper 8 % des matchs dans la saison de baseball. Coupe 8 % des matchs. Les réseaux de télévision qui ont payé des fortunes pour diffuser les rencontres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, hey, on va couper, vous allez couper le montant qu'on vous donne de 8 %. Puis les détenteurs de billets de saison, ils vont dire, hey, il y a moins de matchs, vous allez nous couper ça également d'un certain nombre de pourcentages. Bref, les revenus du baseball vont décroître. Puis penses-tu que les joueurs, eux, vont accepter comme ça très facilement d'avoir des coupes de 8 % dans leur salaire pour compenser? Je pense pas. Alors, moi, je ne vois pas ça venir, là, vraiment, une coupe du nombre de matchs. Le baseball, c'est un sport traditionnel. Je sais qu'on le bouscule à l'heure actuelle avec toutes sortes de façons. La nouvelle règle sur le but sur balle intentionnel, par exemple, on veut mettre des chronomètres pour les lanceurs pour que le rythme des matchs soit plus rapide. Mais il en reste pas moins que c'est un sport qui est profondément ancré dans la tradition. Les records, tout ça, c'est basé sur une saison de 162 matchs depuis très longtemps. Ça a été 154 pendant une longue période. Mais là, c'est 162. Et des sports...
Cherchant quelle année ça avait changé, justement, pendant que je t'écoutais là-dessus.
Écoute, de mémoire, c'était à la fin des années 60, mais il faudrait vérifier. Je te dirais simplement ceci. C'est qu'au hockey, dans la Ligue nationale, c'est le seul sport là, dont je me souviens où on a réduit le nombre de matchs tout à coup. Il y a peu de gens qui se souviennent de ça, mais il y a eu deux saisons au début des années 90, 1992-93 et 1993-94, on est allé à 84 matchs. Ces deux saisons-là, les équipes ont disputé 84 matchs et on s'est aperçu après deux ans que c'était trop. Alors on est tombé à 82 et c'est 82 depuis cette époque-là.
Autre sujet, mais on va rester dans le baseball, bien sûr, Philippe, parce que bien que ça a été une entrée somme toute réussie, l'entrée en scène de Vladimir Junior à Toronto, parce que l'équipe n'avait pas perdu de match son premier week-end, bien qu'il n'avait pas volé la vedette, avait quand même frappé un coup sûr dans chaque match, sauf que lui et l'équipe, offensivement, sont vraiment au ralenti depuis ce temps-là.
Ah, ça va vraiment mal pour Vladimir Guerrero. C'est là que tu vois comment la trame narrative peut changer rapidement, hein, Mario. J'ai lu cette semaine, si j'ai pas lu 10 articles sur le sujet suivant, est-ce que Vladimir Guerrero doit être retourné dans le baseball 3A? Tu sais, j'en ai pas lu un. Alors, c'est un gros débat à l'heure actuelle. Il est complètement mystifié par les lanceurs des majeurs. C'est sûr qu'on lui donne très peu de balles rapides. On y va avec beaucoup de balles courbes, de balles à l'extérieur. On le défie pas, là, pour reprendre l'expression consacrée. Mm-hmm. Et lui, il est à l'heure actuelle tout mêlé. Sa fiche, sa moyenne au bâton est de 162 à l'heure où on se parle. Donc ce soir, il va avoir l'occasion peut-être de se donner une meilleure contenance. Mais c'est un début très, très difficile. Et c'est là que tu vois qu'on... Bien sûr, tous les yeux sont rivés sur lui. Et la pression qu'il a, elle est énorme parce qu'il est vu comme le meilleur prospect du baseball majeur. Alors les lanceurs, là, qu'il l'affronte, là. Tu veux pas être le premier à donner un coup de circuit à Vladimir
Guerrero. Il est mieux donner un but sur balle. Mieux donner un but sur balle que de donner une offrande qui pourrait catapulter. Clairement, on l'a vu à chaque duel, on dirait, hey, si tu penses que c'est moi qui vais être en reprise toute ma carrière à te donner ton premier circuit des majeurs, oublie ça, mon piste.
C'est ça, parce que le lanceur, là, peu importe qui il est, il sait très bien une chose. La journée où Guerrero frappe son premier circuit, ça fait le tour. La scène, la vidéo de ça, là, est diffusée sur tous les réseaux sociaux. Et ça va être écouté par tout le monde. Ça va être diffusé dans les reportages des bulletins de sport à la télé. Et tout le monde va dire « Ah, tiens, c'est lui, là. C'est ce lanceur-là qui passe à l'histoire. » Et donc, il n'y a personne qui veut ça, évidemment. Et là, Guerrero, ben, il y a des ennuis. Puis comme les Blue Jays, c'est pas une grande équipe. Il n'y a pas énormément d'appui dans la formation. Il y a quelques frappeurs qui sont pas si mal avec les Blue Jays, Justin Smoke et tout. Mais tu sais, c'est pas la grande équipe des Blue Jays de l'époque de Bautista puis Josh Donaldson. Alors, c'est très difficile pour lui. Et ça vient un peu troublant. Maintenant, je lisais une entrevue avec le président des Blue Jays, Mark Shapiro, qui disait qu'il fallait être patient. T'sais, il disait à peu près tout ce qu'on peut dire à propos d'un jeune joueur, et ça, peu importe le sport, quand l'adaptation est un peu plus difficile. Ça me rappelle un peu ce qu'on disait ici à Montréal à propos de Jesperi Kotkaniemi à partir du mois de mars. Mm-hmm. Ben, c'est difficile, l'adaptation, le processus, faut pas avoir de trop grandes attentes et tout. Alors, on dit tout ça, puis c'est vrai, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, mais lui, là, Vladimir Guerrero, là, il doit avoir hâte de sortir de cette léthargie énergie, parce que c'en est une. Il avait bien commencé son premier match, souviens-toi. C'est lui qui donne la charge quand les Blue Jays gagnent le match en fin de neuvième manche. Il frappe un double. Ça donne le ton, puis il a été remplacé par un coureur suppléant qui est venu par la suite marquer le point vainqueur. Alors, tu sais, ça faisait tout un début. Comme tu le rappelais tantôt, ils ont gagné les deux matchs suivants. Balaye les Aces d'Oakland. C'est extraordinaire. Quel début. Mais là, après ça, ça s'est véritablement gâté depuis ce temps-là. J'ai regardé, j'ai vu beaucoup de ses présences au bâton. Et ce qui est inquiétant, c'est pas si inquiétant parce qu'il est jeune, on sait que ça va finir par débloquer. Mais, tu sais, c'est un gars qui est reconnu pour frapper la balle tellement solidement, un contact. Mm-hmm. Tu sais, ça fait pow quand il frappe la balle. Et là, on n'a pas ça à l'heure actuelle. Tu sais, c'est des coups qui sont frappés un peu mollement au deuxième. Tu sais, il a fait un de ses coups sûrs, là. C'est un coup sûr au champ intérieur. Tu sais, ça donne une idée. C'est une petite balle qui a passé à côté du lanceur en roulant, qui est allé derrière le deuxième but. Puis je pense que c'est l'arrêt court qui l'a ramassé. Puis il était trop tard pour lancer au premier. Mm-hmm. Tu sais, encore une fois, là, c'était pas un coup frappé d'aplomb au
mais
champ
gauche. Ça me ramène à parler de son père. Tu sais quoi? Parce que, dans le fond, son père, il n'y a pas aucun lanceur non plus qui voulait lui donner une offrande qui pouvait catapulter au troisième balcon. Et ça a été ça toute sa carrière. Et parfois, c'était un peu étourdissant de voir Vladimir Senior s'élancer sur des tirs qui rebondissaient à terre. Mais souvent, il n'y avait pas le choix. Mais la différence qu'on établissait entre le fils et le père, c'est qu'on a dit du fils avant qu'il arrive dans le baseball majeur, c'est un frappeur beaucoup plus discipliné. Mais sais-tu quoi? Il va peut-être devoir développer l'habileté de son père si on lui offre jamais de bons tirs à frapper, puis être capable de frapper n'importe quoi, ce que le paternel a réussi avec Brio toute sa carrière.
C'est un excellent point que tu soulèves, Mario. En effet, je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est sûr que lui vit avec des attentes que son père n'a pas eues non plus. Tu sais, quand Vladimir Guerrero père est arrivé dans le baseball majeur, tout le monde savait que c'était un bon joueur, mais il n'y avait pas de véritables attentes. Des bons joueurs prometteurs, il y en a eu plusieurs à Montréal et ailleurs. Bien, il y en a que ça fonctionne, bien, il y en a que ça fonctionne pas. Mais lui, tout à coup, on s'est aperçu que c'était un vrai bon. Sauf que là, le fils, lui, il arrive avec toute cette pression du père avant lui d'étiqueter meilleur espoir des majeurs. Et c'est gros, là. Oui. Meilleur espoir des majeurs, c'est énorme, là. Et donc, c'est quand même lourd à porter pour un gars de 20 ans. Alors, j'ai hâte de voir s'il va passer toute la saison à Toronto, mais je te dirais qu'aujourd'hui, c'est pas sûr, là. Et d'ailleurs, Shapiro, il notait, il dit, il y a beaucoup de grands joueurs qui ont commencé dans les majeurs. Ça a été un peu difficile. Ils sont retournés dans le 3 un peu de temps, puis après sont revenus, puis ils ont mis de l'ordre dans leur jeu, puis encore, permets-moi une autre comparaison avec le hockey. Regarde Victor Mété avec le Canadien cette année.
Oui, ça a été très bénéfique son retour à Laval.
Voilà, ça lui a fait du bien. Puis
mais les Jays ont le beau jeu, je parle de l'administration, parce que jusqu'à ce qu'on le rappelle, on les blâmait de ne pas l'avoir fait avant.
Ouais.
Et là, ben ils peuvent toujours bien dire, ben vous voyez, mesdames, messieurs, peut-être que ça serait nécessaire qu'ils retournent en bas, alors ça va au moins se faire sans controverse si telle est la décision éventuelle des Blue Jays.
T'as bien raison.
Philippe, je te souhaite un bon week-end. As-tu une petite prédiction de finale de Coupe Stanley? Sharks Bruins ou...
Je pense... Oui, tout à fait. Sharks Bruins. Je pense que les Bruins, hier, ils ont envoyé un message aux Hurricanes, là. Tu sais, les Hurricanes devaient penser là, qu'il y avait une grosse chance de gagner après 40 minutes. Puis quand la machine des Bruins s'est mise en marche, là,
un avantage numérique.
Ouais, ça a été dur. Ça a été dur pour les Hurricanes. Et de l'autre côté, c'est les Sharks, ils ont tout un club aussi. Ils sont, pour reprendre la vieille expression consacrée dans le sport, ils sont dus.
Oui, oui. Ils sont en mission.
Ouais, mais ce serait pas mal que ce soit le club de l'Ouest qui gagne, parce que c'est deux équipes dans l'Ouest qui n'ont jamais remporté la Coupe Stanley.
T'sais, je souscris à ça.
Ouais, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont dans la Ligue nationale.
On est tellement
ils n'ont jamais gagné.
Hein, Philippe, on veut partager ça, nous autres. De toute façon, on n'a pas besoin de célébrer ça bientôt. On l'a célébré en 93 quand même, puis on s'en souvient. Hey, Philippe, de toute façon, on n'est pas dans le coup cette année. Alors, bonne soirée, bon week-end.
Merci beaucoup, Mario, à toi aussi.
Bye-bye. Et dans quelques minutes, Danny Dubé se joint à la conversation sur les séries éliminatoires.